RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, ravi de vous retrouver. Entre les poteaux, c'est reparti pour une nouvelle saison que l'on espère évidemment la plus longue possible, même s'il y a évidemment beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur le rugby comme sur le reste de la planète sport. Pendant une demi-heure chaque semaine, eh bien nous allons revisiter l'actualité du rugby avec toute la petite bande des poteaux. Le poteau en chef, c'est évidemment Denis Charvet, l'enfant roi du rugby.
Le chef,
c'est... Il se définit lui-même comme une cagole. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai lu ce matin dans les colonnes de Midi Olympique. T'étais une cagole avant peut-être, plus maintenant, c'est fini.
On est tous un peu cagole, hein. Prendre soi.
Ça va, Denis, en pleine
forme ? Oui, impeccable, écoute, oui.
On est ravis de te retrouver. Midi Olympique, justement, et son rédacteur en chef, Manu Massicard, qui nous accompagnera toutes les semaines. Salut Manu, ravi de te retrouver.
Salut les amis.
Bon, avec cette interview de Denis Charvet, vous avez fait pleurer la France de rugby quand même, hein.
Ouais, beaucoup d'émotions.
Ouais, de l'émotion, exactement. Également avec nous, il est le patron de la rubrique rugby d'RMC, j'ai nommé Jeff Paturo. Salut mon Jeff.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et en face de moi, le consultant vedette. Quoi, de...
ouais, c'est Jeff. Il fait tout à la fois. Jeff qui a passé son samedi à Marcoussis, jour de tension et d'élection à la FFR, qui a donc vu Bernard Laporte succéder à lui-même à l'issue d'une campagne très tendue. Alors cette réélection est-elle une bonne nouvelle pour le rugby français ? La paix des braves est-elle possible après tant de tensions ? On ouvre le débat dans un instant. Chaque semaine, entre les poteaux, nous ferons également la part belle au frelon de la semaine. Ce mot si cher au cœur de Vincent Moscato, le joueur ou l'équipe qui a marqué de son empreinte le week-end rugby. Et notre choix s'est porté aujourd'hui sur Célévasio Tolofua, le troisième ligne centre du Stade Toulousain, qui crève l'écran depuis le début de la saison. Il fuit le Templier, nous le fera un peu mieux découvrir. Et puis on ouvrira également la boîte à gifles. C'était pas ton fort, la boîte à gifles, Denis?
Bon, j'en ai pris qu'une, moi, dans ma carrière.
Et t'en as mis quelques-unes, quand même,
aucune,
des
bouffes, que...
Il en méritait d'autres, mais...
Donc, la boîte à gifles, ce sera le moment de tension du week-end, journée de championnat, marquée notamment par une avalanche de cartons rouges. Enfin, les infos les plus chaudes du moment, c'est dans Côté Fermé, en toute fin d'émission, qu'on en discutera. Messieurs, j'espère que vos protège-dents sont bien en place, car il est l'heure d'entrer en mêlée.
Action, liée, jeu.
La fumée blanche est donc sortie avec une petite demi-heure de retard samedi à Marcoussis, où se déroulait donc l'élection à la tête de la Fédération française. Dernier acte d'une campagne très tendue, marquée par les invectives des uns et des autres, mais encore par la garde à vue il y a quelques jours de Bernard Laporte et de sa garde rapprochée. Épisode qui n'a pourtant pas empêché Jeff, bien le président sortant, de se voir réélu avec un peu plus de 51% des voix. Ça s'est joué à peu de choses, mais ça suffit à Bernie, reconduit donc pour 4 années supplémentaires à la tête de la Fédé. A priori, ces 4 dernières années comme patron de rugby français. Il l'a promis.
C'est ça, effectivement. Après, pourquoi pas un destin à World Rugby ? Il faut rappeler qu'il est vice-président de World Rugby. Tu l'as dit, Christophe, c'était très serré, 51,47% pour être précis, pour la liste de Bernard Laporte contre 48,53% pour celle de Florian Gris. Ça a été très serré jusqu'au bout. La campagne a été longue, agitée en coulisses, marquée par plusieurs gardes à vue, dont celle directement de Bernard Laporte. Mais l'ancien sélectionneur, lui, dit ne jamais avoir douté.
52-48, encore une fois, ça monte avec la majorité des clubs, nous a redonner leur confiance, voilà, un mandat de plus de 4 ans. Sincèrement, il n'y a pas de soulagement, moi j'ai jamais douté. Hein. Je l'ai pris avec beaucoup de sérénité. Moi j'estime qu'on avait fait le job, comme on dit dans le jargon. Puis voilà, ils nous ont redonné leur confiance. Merci à tous ces clubs, ça n'a pas été facile la campagne.
Ça n'a pas été facile. Et du côté des clubs professionnels et la Ligue nationale de rugby, la donne est un peu différente. Certains auraient franchement préféré que ce soit Florian Gris qui passe plutôt que Bernard Laporte. Samedi après-midi, il y a eu un communiqué assez laconique de la Ligue. Et les premiers mots de Bernard Laporte, justement, c'était des mots d'apaisement, d'unité. Sauf que 5 heures plus tard, il était invité sur RMC. On se rappelle, Christophe, il a un peu balancé le président.
La guerre, c'est la LNR qui l'a déclenchée il y a 6 mois. Il faut dire les choses comme ça. La LNR a pris parti pris pour l'opposition. Mais c'est comme ça. Encore une fois, moi je ne le rends pas. Mais moi, la LNR, c'est quoi la LNR? Moi, j'ai envie de parler à Didier Lacroix, à Thomas Lombard, à Moïse Altraz. J'ai envie de parler aux présidents de clubs qui sont avec moi et que j'écoute. Voilà, il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, ça ne m'intéresse pas. La Fédération française de rugby n'a jamais attaqué la Ligue nationale de rugby. Hein. Mettons les choses à leur place.
Voilà, chassé le naturel, il revient au galop avec Bernard, même s'il y avait des moments...
Il n'avait pas encore chanté Joe Dassin.
Non, c'était un peu plus tard. Et Denis, justement, a vécu la fête. Il était heureux, il était euphorique. Bernard, revanchard quelque part ou non, Denis ?
Soulagé, on sait que sa force, c'est de ne pas douter à Bernard. C'est vrai,
il a douté, non, quand même.
Mais quand il dit « je ne doute pas », il ne doute pas, Bernard. Le problème, c'est que c'est vrai que la campagne était très très serrée, que ça s'est joué à 15 clubs, je crois. Donc, c'est, voilà, si Florian Gris l'avait emporté, ça aurait été pareil. Mais la force de Bernard, c'est que quand il va en déplacement dans les clubs, eh bien, il a cette force de conviction. Et je crois que c'est ce qui a fait la différence au final, parce qu'il est parti de très très loin. Mais bon,
Il avait quand même beaucoup d'avance avant sa garde à vue.
Oui, mais justement, lui disait que il faut que les présidents votent parce que plus ils voteront, plus je gagnerai. Ouais. Mais la vérité, c'est que même ça, c'est mais il a pas maîtrisé, même s'il a gagné au bout du compte. Mais en tout cas, il y avait un gros soulagement vraiment chez lui. Il était à bout de nerfs et sincèrement, j'ai rarement vu comme ça.
Alors Jeff, est-ce que cette élection signifie la fin de la brouille entre la Ligue et la Fédé qui sont engagés, on le rappelle, dans une guerre juridique, notamment à propos du nombre de matchs que l'équipe de France doit disputer à l'automne, 5 ou 6, est-ce que c'est la fin de la guerre? Est-ce que l'âge de guerre est enterré?
À ton avis, tu crois vraiment
pas une seule seconde.
C'est encore loin d'être fini puisque c'est encore très agité cette semaine en coulisses. Ce lundi, le Conseil d'État a prolongé de 48 heures son instruction sur le conflit qui oppose justement la Ligue et la Fédé sur la mise à disposition des internationaux. Je vous rappelle, la Ligue veut pas plus de 5 matchs au lieu des 3 initialement prévus. C'est déjà un effort à titre exceptionnel selon les clubs. Alors que du côté de la Fédé, on s'appuie sur les recommandations de World Rugby, c'est-à-dire 6 matchs, dont le France-Irlande pour terminer le tournoi, et c'est encore loin d'être terminé, sauf que le France-Pays de Galles, c'est le 24 octobre.
Exactement, 24 octobre, premier donc de ces 5 ou 6 matchs, on verra ce qu'il en est. Manu, il y aura 5, il y aura 6 matchs, qui va l'emporter? C'est vrai que là, Bernard, avec sa réélection à la tête de la Fédé, est quand même en position forte.
Ouais, on va voir ce que dit le Conseil d'État, on va voir ce qui se passe en dehors des terrains et en dehors des discussions du rugby. 5 ou 6 matchs, à la limite, je vais te dire, c'est même plus la question. C'est important pour Galtier. Galtier va convoquer demain, cette semaine, il va annoncer une liste de 31 joueurs. Il n'aura pas les 40 et quelques qu'il souhaitait depuis le début pour travailler. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Après, il y a une vraie brouille entre Ligue et Fédération. Bernard peut dire que c'est pas lui qui a fait la guerre. Il faut lui rappeler quand même que dès le début de sa première élection, il avait haussé le ton, musclé le discours vis-à-vis de la Ligue. Et quand tu fais la guerre, il faut s'attendre à prendre des coups de bâton. Il est plutôt bon là-dedans, hein, dans ce rapport de force. Il a tenu, c'est ce qui lui a permis de gagner l'élection. Ne l'oublions pas. Alors que, vous l'avez dit, le PNF c'était mal engagé à un moment donné. Reste à savoir maintenant s'ils vont arriver à faire la paix tous ensemble.
Oui.
Denis,
non, mais bien sûr.
Est-ce que
non.
Tu y crois?
Non,
je crois pas.
Dans les grandes gueules du sport, tu nous disais que tu espérais quand même que.
Non, mais
la
j'espère du fond du cœur pour mon sport, pour le rugby. C'est dramatique que l'homme de la Ligue s'entende pas et la Fédération, sincèrement. Donc aujourd'hui, ça va être de plus en plus tendu. Je pense pas que Bernard va faire marche arrière, malheureusement. Et quand il dit, il a un message fort, moi je vais discuter avec les présidents, c'est faire quand même offense ou injure à la Ligue.
C'est pour court-circuiter un peu la Ligue aussi.
Ouais. Évidemment.
C'est un problème de personne aujourd'hui. Bernard Laporte qui ne s'entend pas avec Paul Gauze. Aujourd'hui, on est dans une vraie opposition. Dans Middle, aujourd'hui, le président de la fédération dit qu'il ne votera pas pour la modification des statuts qui permettrait à Gauze de rester. Donc, ça sera comme ça jusqu'à la prochaine élection du président de la Ligue.
Mais elle intervient quand au printemps prochain, c'est ça?
Ouais, avant le mois de mars. Je vais vous dire, c'est même plus le problème. C'est.
Mais Bernard, ça veut dire que jusque-là, la situation va être bloquée, Manu, on va pas pouvoir avancer d'un pas?
J'ai bien peur.
Moi, j'ai bien peur.
Sauf que,
tant qu'on ne connaîtra pas le successeur de Gauze, j'ai bien peur qu'on en soit dans cette situation.
Le successeur de Gauze, pour l'instant, on ne sait pas trop qui c'est. Les élections, en fait, ils ont jusqu'au mois de mars, si je ne me dis pas de bêtises, la Ligue pour les organiser. Oui. Et donc, ils vont décider, a priori, selon mes infos, dans les 2 semaines, la date. Est-ce que ce sera maintenant pour accélérer, sachant que les discussions sont quasiment nulles entre Bernard Laporte et Paul Gauze? C'est une possibilité. Et pour l'instant, il n'y a aucun candidat déclaré.
Il y en aura bien un qui va y aller. Il n'y aura pas de.
Désigné d'office.
Non, mais c'est vrai.
Denis, tu serais un parfait arbitre, toi.
Oui, t'as raison. C'est vrai qu'avec mes relations avec Bernard, ça se passerait très, très bien. Non, mais c'est vrai. Ce serait l'entente cordiale.
Bon. L'élection de Bernard Laporte, qui est en revanche une bonne nouvelle pour l'équipe de France, hein, qui est donc assurée de conserver son sélectionneur Fabien Galtier, qui a été renforcé de quelque part, de par sa prise de position ferme en faveur de Laporte, Jeff. Hein.
Oui, une position ferme, oui et non. Et son destin était lié, il l'avait rappelé depuis 20 ans à celui de Bernard Laporte. Mais honnêtement, est-ce que Fabien Galtier serait parti si Bernard Laporte n'avait pas été élu? Ce qui est sûr, c'est que Florian Gris et son équipe.
Votre appel a été mis en attente.
Ah, ça, c'est Bernard Laporte, peut-être, qui essaie de nous appeler. Et ce qui était sûr, en tout cas, c'est que Florian Gris et son équipe auraient conservé Fabien Galtier. Il y avait peut-être un petit peu de bluff de la part du sélectionneur. Maintenant, il va pouvoir basculer vraiment vraiment sur les matchs à venir avec son staff. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que tout le monde s'accorde à dire que Fabien Galthié est l'homme de la situation.
Oui, après, Fabien, il a une personnalité quand même qui est bien particulière et qu'il était capable sur un coup de tête de partir. On l'a vu par le passé avoir des réactions assez, assez bizarres. Mais même si c'était dans l'intérêt général du rugby, je ne suis pas sûr que Fabien y serait resté.
Très bien. Les Bleus qui disputeront donc le premier de leurs 5 ou 6 matchs, ce sera le 24 octobre prochain au Stade de France contre le Pays de Galles. Oui, on parle de quoi ? 1000
Il n'y aura pas de dérogation.
1000 sur les 80 000 du Stade de France, ça va vraiment sonner vide. Galthié qui communiquera, je crois, sa liste ce mercredi, Jeff.
Mercredi à 12h30, conférence de presse attendue. Le staff est déjà au travail depuis il y a quelques semaines. Il s'entraîne à entraîner, vous savez, ça, c'est un peu comme toi si tu t'entraînais à faire de la radio tous les jours chez toi. Bah, eux, ils font pareil. Ils font ça régulièrement et ils communiqueront mercredi midi leur liste.
Très bien. Parmi les postulants à cette liste, le Toulousain Selevasio Tolofua qui depuis quelques semaines crève l'écran et les défenses adverses.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Oui, pas facile à stopper, notre frelon du jour, Telo Tolofua, donc Selevasio de son prénom, 23 ans, troisième ligne centre du Stade Toulousain qui ce dimanche face à Toulon a de nouveau marqué les esprits, Wilfried Templier.
Sorti hier soir après 70 brillantes minutes face à Toulon où il affrontait son frère Christopher, Selevasio Tolofua venait d'enchaîner une quatrième titularisation en 5 matchs depuis le début de saison. Alors quand on a demandé à l'entraîneur des avants, Jean Bouilloux, ce qu'il pensait de l'évolution de Selé, comme il l'appelle, la réponse a été dithyrambique.
Je pense qu'on a tous vu, on a tous vu la performance de Selé ce soir. Et il monte en puissance, ça fait déjà quelques saisons qu'on le connaît, mais c'est vrai que là, il est titulaire, c'est pas pour rien s'il fait 80 minutes ou quasiment à chaque match. C'est qu'il est vraiment indispensable dans notre dispositif, c'est quelqu'un de très puissant, très adroit, qui sait jouer dans les petits espaces et qui sait aussi jouer debout. Voilà, donc c'est un joueur complet et qui est une pièce essentielle dans notre jeu, c'est clair.
Rien que ça, Selevasio Tolofua semble savoir tout faire sur un terrain puissant, habile, balle en main. On se demande parfois comment il se joue des défenseurs. L'expérimenté arrière Maxime Médard a son idée.
C'est un joueur qui a grandi, évolué, surtout toutes les catégories du stade, donc il connaît très bien le jeu, mais il a surtout Jérôme Caino qui est à côté de lui, qui je pense lui donne beaucoup d'outils. Et Célé, c'est un joueur exceptionnel, que ce soit balle en main, pour percuter, il a une palette assez exceptionnelle. Enfin, franchement, c'est un sacré joueur.
Jérôme Caino, le All Black aux 86 sélections, double champion du monde, monsieur de ce sport, a dit de Tolofua qu'il serait un jour un très grand. Alors l'intéressé l'avoue, à ses côtés, il boit ses paroles.
Depuis qu'il est arrivé, il m'a beaucoup apporté. Enfin, je regarde, je l'observe tout le temps et quand on s'entraîne, il m'explique toujours des choses et je vais souvent vers lui pour en savoir plus sur sa défense, sur la défense et tout ça, parce que c'est quand même un très grand joueur. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un joueur comme ça à ses côtés. Ouais.
On souhaite à Selevasio Tolofua le même destin international que son aîné néo-zélandais. On surveillera d'ailleurs la prochaine liste de Fabien Galthié pour savoir si, après être devenu incontournable au Stade Toulousain, Selevasio Tolofua peut pointer le bout de ses crampons chez les Bleus.
On lui souhaite évidemment d'être appelé par Fabien Galthié. On rappelle qu'il avait déjà été appelé, je crois, dans une liste élargie en février avant de se blesser. Manu, est-ce que pour toi, il a le profil pour être appelé dès à présent par Fabien Galthié ?
Il n'y a pas beaucoup de joueurs de ce calibre en France. Et il peut être effectivement le complément, une option intéressante avec Grégory Aldrit, qui est plus dans le déplacement, qui franchit lui aussi, mais qui s'est installé et qui couvre un peu plus de terrain. Pardon. Moi, je le vois bien dans un futur proche se rapprocher des Bleus et jouer sa carte. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'options et ça aurait le mérite de positionner, de garder Charles Olivon au couloir, enfin pas au couloir, au poste de flanqueur, et ne pas lui amener à couvrir les deux postes. Pour moi, c'est une option intéressante.
Denis ? Mais il ne faut pas se tromper, hein. Le Tolofua qu'on a vu hier soir, ce n'était pas celui de l'an passé. C'est un garçon qui est monté en puissance, qui a vraiment franchi un cap. Et un cap, quand on dit un cap, c'est un cap international. D'ailleurs, ça ne trompe pas, il est titulaire à chaque match. Donc ça veut dire qu'il a atteint sa plénitude. Et surtout, je trouve qu'aujourd'hui, il est en pleine confiance. C'est-à-dire qu'il fait des choses même qu'avant, il ne faisait pas. Il ressemble un peu à un joueur All Black. Moi, ça me fait penser à ces joueurs All Black qui sont intraitables sur l'homme, mais qui arrivent toujours à passer le premier rideau, à casser les premiers plaquages. Voilà, hier, il a été monstrueux face à des joueurs en face confirmés, des Isa, des joueurs Lacafia, enfin, vraiment vraiment des joueurs de internationaux. Et hier, il a explosé littéralement. Donc, je pense que s'il continue, il n'y a aucune raison qu'on ne le voit pas en équipe de France jouer les premiers rôles.
Attention, Wilfried nous l'a expliqué. C'est un joueur aussi qui connaît parfaitement la culture toulousaine et les schémas.
C'est pas facile d'en sortir de la culture toulousaine. Du schéma toulousain. Ouais. Quand tu vas en équipe de France, c'est différent.
C'est exactement ce que je voulais dire.
Après, il est quand même monstrueux sur des phases de jeu où il n'y a pas que la culture toulousaine, hein, où il arrive à casser 2, 3, 4 plaquages et faire des choses absolument incroyables.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il joue quasiment les yeux fermés, Denis. Quand ils sont dans l'avancée autour des points de rencontre, il sait où ses soutiens vont se situer. Il joue vraiment, il récite ce rugby, il sait où vont être ses partenaires. Je ne sais pas, dans un rugby un petit peu différemment que celui de Gadier, avec une redistribution différente, avec une occupation du terrain différente, je ne sais pas s'il va se retrouver aussi à l'aise. C'est aussi un rugby d'équipe de France qui va lui demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de déplacements. Est-ce qu'on l'utilisera de la même manière? Pour moi, c'est la seule incertitude.
Il a un seul défaut, c'est sa taille, finalement, parce qu'en touche, on sait, c'est pas un joueur qui évolue... Comme Aldrid peut évoluer au sein de l'équipe de France.
Cette équipe toulousaine, elle nous a régalé quand même, hein, face à Toulon. La première mi-temps de folie, j'avais rarement vu.
Puis surtout, aussi.
Oui, incroyable. Vous avez vu la tête de Patrice Collazo aussi.
On aurait dit des juniors, les Toulonnais. Ouais. Vraiment, ils ont joué. C'est vrai qu'il y a les yeux fermés. Et puis bon, après, ce qui est beau dans le jeu toulousain, c'est qu'après être quand même. Avoir perdu contre Exeter, rebondir comme ça et y mettre la manière et scorer, c'est quand même beau.
Il n'y a pas de place au doute dans cette équipe, on a l'impression.
C'est en pleine confiance, on le voit, la charnière est en pleine confiance, même Maxime Ménard qui revient dans l'effectif a fait un grand match, voilà, donc tous les voyants sont au vert pour le stade.
Et on verra si Tolofua, s'il est appelé donc par Fabien Galthié, réponse donc mercredi en fin de matinée. Jeff, chaque week-end, sur les terrains du top 14, ça castagne sec et comme on ne veut pas être en reste, nous aussi, entre les poteaux, eh bien on va ouvrir la boîte à gifles.
RMC, entre les poteaux, la boîte à gifles.
Voilà, moment chaud, bagarre, déclat un peu véhément, c'est aussi pour ça que le rugby nous régale. Et toutes les semaines, entre les poteaux, on va donc revenir sur ces moments chers à l'Ovalie. Un week-end marqué par une avalanche de cartons, qu'ils soient jaunes ou rouges. 11 en tout distribués cette semaine, dont 6 expulsions. Parmi les biscottes rouges, celle adressée aux demi de mêlée palois Clovis Le Bail pour un raffut avec le coude sur un pilier briviste. Une expulsion qu'il a vécue comme une injustice. Écoutez son dialogue avec Monsieur Nushi, l'arbitre de la rencontre.
Bref.
Je me protège, je fais 40 kilos.
Je peux comprendre ça. Par contre, vous connaissez les consignes. Du moment où vous décollez le bras, vous prenez le risque.
Mais vous voulez quoi? Je me fasse défoncer?
C'est le rugby. Vous avez le droit de... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je peux vous comprendre. Vous devez rafuter, mais bras au niveau du cou, c'est carton rouge.
J'ai pas le temps.
Voilà, bien tenté de la part de Le Bail, mais la règle, c'est la règle. Même si on fait 40 kilos de moins, Denis, t'as déjà tenté de te défendre de la sorte en disant bah, « Attendez,
moi, c'est pas le rugby,
je suis trop petit, je suis trop mince. »
Non, mais moi, je suis pas le roi du raflu non plus.
T'étais pas le roi du raflu. Ces règles, donc justement, appliquées à la lettre par les arbitres du top 14, je disais 6 cartons rouges ce week-end, ce qui porte à 11 le nombre d'expulsions, Jeff, depuis le début de la saison. C'est du jamais vu. Et est-ce qu'ils sont pas un peu trop zélés, nos arbitres?
C'est vrai qu'il y a certains cartons qui paraissent un peu sévères, celui-là peut-être. Mais hier, le rouge du pilier toulousain Netti, il est assez net.
Pour un déblayage.
Et ce qui est un peu agaçant dans ce cas-là, c'est qu'on a l'impression qu'on en parle pendant 10 minutes avec l'arbitrage vidéo. Alors
comment on ne sanctionne pas tout de suite? Nous, spectateurs, quand on voit le geste, on se dit, ben voilà, il est mis rouge et puis c'est fini. On a mis
surtout 5, que l'arbitre est juste 6, devant 5, lui. Hein.
5-10 minutes, quoi. Mais c'est trop long pour le rugby. Ah,
bien sûr, ça casse le rugby. Ça casse tout. Les spectateurs et les téléspectateurs ont envie de s'en
mêler. Mais là, il n'y a pas photo.
Il n'y en avait pas beaucoup.
Il n'y a pas photo. Il est rouge, point barre.
Est-ce qu'ils n'ont pas aussi de plus en plus de pression? Ils ont peur de se planter, les arbitres.
Oui, bien sûr qu'il y a ce sentiment-là, mais après, il faut aussi se revoir leur copie, parce que c'est sûr, encore une fois, ça casse le rythme, mais c'est surtout très emmerdant pour ceux qui le regardent à la télé. Je suis désolé, c'est interminable.
Je suis pas d'accord avec vous sur le bail. On dit les arbitres font du zèle. Non, sur le coup, ce sont les joueurs qui font du zèle. Qu'ils soient pris, mais il fait une vraie faute. Donc, il doit se taire. Et il ne doit pas sortir en levant les bras au ciel.
En l'applaudissant.
En
applaudissant comme il l'a fait.
Ouais, je suis désolé. D'accord, c'est pas terrible.
Il y a quelques années, il aurait pris 10 mètres de plus et c'était réglé.
D'accord.
Ouais. Bon, d'un autre côté, le Bayern n'a pas beaucoup de risques de blesser son vis-à-vis quand même sur
non,
ce
c'est pour ça
que
c'est
bon, il sait qu'il fait faute, il n'a pas à commenter.
Non. Ouais.
Alors, parmi les autres fautifs du week-end, il y a aussi le jeune pilier fidjien du Stade français, Luc Tagi, c'est comme ça qu'on prononce.
Ça va être un peu handicapant parce que le Stade français, il faut rappeler que Paul Aloïmi, il a pris 3 semaines de suspension.
Alors Tagi, là, sa faute aussi, elle est inexplicable. Elle a fortement déplu d'ailleurs à son entraîneur, Gonzalo Quesada. C'est une faute professionnelle que je ne peux pas comprendre. Je ne comprends pas que dans la situation dans laquelle se trouvait l'équipe à cet instant, on puisse commettre ce genre de faute. Fâché, Gonzalo, on peut le comprendre, hein, tant le geste de son pilier.
C'est une double punition. Il y avait mêlé pour le Stade. Donc un essai à transformer, ça faisait égalité. Et là, non seulement t'as pas égalité, t'as pas de points de bonus défensif et t'as un joueur en moins. Mais ouais, c'est inexplicable, quoi. C'est un manque de maîtrise totale à ce niveau-là, quoi. Comme on l'avait vu avec Bahamina pour la Coupe du Monde de rugby, moi j'avais dit c'est des gestes impardonnables. Bon, après tu voilà.
Ouais. Mais
c'est...
Oui, Manu.
Ouais, on est dans une préparation de saison ou un début de saison qui est un peu anachronique avec très très peu de préparation collective. Et sans doute un manque de repères de la part des joueurs et des effectifs, tout simplement, dans la mise en place de leur rugby. Et on se retrouve avec sans doute ce revers de la médaille, des joueurs qui sont à la limite, qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas beaucoup la règle, qui ne savent pas comment se situe le collectif. Ils sont encore dans une phase d'apprentissage et ils font beaucoup de fautes comme ils en feraient lors de matchs amicaux, finalement. Et puis, en fait, c'est la sous-sauce, quoi. Ils font n'importe quoi. Il y en a certains qui pètent les plombs. Et on se retrouve à compter les cartons. Là, je crois que ça fait 11
sur 34 matchs. Ouais.
On a l'impression qu'on est toujours au moment des matchs de préparation, des matchs amicaux.
36 cartons jaunes aussi.
Après, ça peut expliquer ce début de crispant de championnat, ces réactions-là.
Voilà, avant de nous séparer, voici les dossiers chauds, les infos de dernière minute, celles d'RMC et du Middle. Tout ça, ça se passe évidemment côté fermé.
RMC, entre les poteaux. Côté fermé.
Jeff, on va commencer par toi. On sait que les cas de Covid causent beaucoup de tourments au club professionnel, au club du top 14. Plusieurs matchs ont été reportés ce week-end, dont celui qui devait opposer La Rochelle au Racing. Les Franciliens frappés de plein fouet par des cas de Covid positifs qui ont donc décidé d'employer la manière forte pour espérer disputer leur finale de Coupe d'Europe.
Oui, parce que ça va devenir un peu stressant. C'est la semaine prochaine, le 17 octobre, contre Exeter à Bristol. Et on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Il faut rappeler que Castres avait dû déclarer forfait sur tapis vert pour son match de Coupe d'Europe à cause de ces cas de Covid. Il y en a 9 au Racing 92. Il y a des tests aujourd'hui, il y a des tests mercredi. On va savoir comment ça va se passer. Ils ne vont pas s'enfermer à Disneyland comme on fait parfois en NBA pour rester dans leur bulle. Eux, ils vont trouver un hôtel pour rester entre eux, se couper de la famille, éviter tout risque. C'est ce qu'on vous révélait hier sur rmcsport.fr. Et ça va durer jusqu'à la finale, jusqu'à leur départ pour Bristol à partir de mercredi jusqu'à la semaine prochaine. On espère que d'ici là, les tests vont bien se passer, qu'il n'y aura pas de nouveaux cas. Parce que, si je vous rappelle, s'il y a 3 cas de Covid cette semaine, il n'y aura pas de réception du stade toulousain samedi.
Donc, pas de match de préparation
avant
la finale.
Donc pas de match à La Rochelle ce week-end, pas de match contre Toulouse à venir, et ce serait un vrai handicap de rythme avant d'affronter.
Un handicap de rythme et un handicap également pour l'organisation du top 14, Manu, parce que là, il va falloir les trouver, les dates, et ça va commencer à devenir compliqué.
Oui, il va falloir les trouver, tu as raison. On se demande si on ne va pas jouer en semaine, on se demande si on ne va pas annuler les matchs et puis donner des matchs perdus tout simplement aux équipes qui auraient eu trop de cas de Covid, exactement comme en Angleterre. Le législateur va être obligé de sévir parce que à terme, il n'y aura plus de dates disponibles. Surtout si on joue 6 matchs cet automne.
Oui. En plus, si on joue 6 matchs, il y aura des doublons à chaque match de l'équipe de France. Autre info, Jeff, qui concerne Damien Penaud, le Clermontois, malheureusement, qui s'est à nouveau blessé. C'est assez grave.
Ouais, effectivement, blessé à la cheville. C'est un vrai coup dur pour l'élite de Clermont, l'élite internationale, qui sera absent entre 6 et 8 semaines. Et il faut le rappeler, c'est une tuile de plus pour lui, qui avait déjà eu un tournoi de destination un peu perturbé, avec des blessures déjà. Et il va rater une très très bonne partie, voire toute l'intégralité de ces matchs à venir au mois d'octobre et au mois de novembre. C'est un vrai coup dur aussi parce qu'à ce poste d'ailier, c'est un facteur X, donc on a vraiment besoin d'équipe de France.
Ouais. Dommage pour Damien Penaud, mais effectivement qui est assez fragile et qui comme ça voit passer beaucoup de trains devant lui. Manu, que trouve-t-on de beau dans le middle de la semaine, mis à part cette magnifique interview de Denis Charvet, notre kingole préféré, hein.
Ouais, permets-moi juste de parler de cette interview qui est assez touchante. Elle est c'est du Charvet comme on n'a pas l'habitude. On connaît Denis comme le bon camarade, comme l'amoureux de rugby, celui qui le talent à l'état pur, mais on connaît peu aussi son parcours et quelques-unes de ses souffrances qu'il a accepté de partager avec Jean-Luc Gonzalez. il y a une dizaine de jours. Ça nous donne une interview, je le disais tout à l'heure, touchante, c'est vraiment le cas, où Denis explique ce qu'a été son parcours. Bah, pour nous, ça fait partie des belles interviews qu'on se doit de partager avec nos lecteurs. Mmh. Et c'est vraiment un bon moment de lecture.
Il n'y a pas eu du tout de réécriture, parce que d'habitude, il ne parle pas comme ça,
non,
dans la vraie vie.
Il y a des mots qu'il n'en parle pas.
Hein. Denis, il y a des mots que tu as inventés là, non, c'est pas possible.
À ta vie.
Il ne répond même plus.
Mais d'abord, je voudrais remercier Manu qui m'a permis. Ils m'ont demandé. Un jour, j'ai dit, on y va. Mais si on y va, je crois, Manu, j'ai dit à Jean-Luc tout de suite, j'ai dit, mais à ce moment-là, on dit tout. Voilà, donc je...
Voilà, exactement.
Parce que j'ai dit, si on fait une interview de plus ou de moins, ça ne servira à rien. Donc, je suis OK, mais on parle et allez, on y va.
Eh bien, écoute, voilà. C'est
et nous n'avons rien retouché derrière.
Rien de rien.
Non, mais il y a tout le rôle. C'est ce que j'ai dit. Et puis d'abord, Jean-Luc est un vrai humain. Et c'est un peu grâce à lui si cette interview a toute cette dimension humaine, puisqu'on parle de l'humain dans cette interview. Pardon.
Voilà, magnifique
émotion.
Tu vois, je comprends, parce que les mots et les déclarations que tu fais dans cette interview sont effectivement très touchants. Merci, merci les potos. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Manu, Jeff... et mon Denis, donc retrouver cette belle interview dans Midi Olympique. À la semaine prochaine entre les poteaux.